Dans les activités précédentes, vous avez découvert les concepts fondamentaux de la cybersécurité. Sécurité, menace, vulnérabilité, risque, ainsi que les trois piliers que sont la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante, identifier concrètement les menaces qui pèsent sur les applications web. Ce cours vous présente les attaques les plus répandues, celles que vous rencontrerez systématiquement dans votre futur rôle de spécialiste en cybersécurité et dans les tests d'intrusion applicatifs. Une application web est accessible depuis un navigateur, via Internet ou un réseau interne. Elle reçoit des données envoyées par les utilisateurs, formulaires, URL, cookies, en tête HTTP, NTP, et les traite pour afficher des résultats, interagir avec une base de données ou appeler d'autres services. C'est précisément dans ce traitement des données que naissent la grande majorité des vulnérabilités. -1. L'injection SQL, Structured Query Language. L'injection SQL est l'une des attaques les plus anciennes et les plus dangereuses qui existent. Elle cible les applications qui utilisent une base de données relationnelle. Lorsqu'un utilisateur soumet un formulaire, par exemple, un champ de connexion avec un identifiant et un mot de passe, l'application construit une requête SQL pour vérifier les informations en base de données. Si l'application ne filtre pas correctement les données saisies par l'utilisateur, un attaquant peut injecter du code ESQL malveillant directement dans cette requête. Exemple concret. Un formulaire de connexion attend un identifiant. L'attaquant saisit dans le champ identifiant la valeur suivante, admin, avec un apostrophe et deux tirets. Cette saisie modifie la requête SQL originale et peut permettre de se connecter sans mot de passe, de lire toute la base de données, de modifier des données, voire de supprimer des tables entières. Les conséquences pour les piliers CIA. La confidentialité est violée, données lues sans autorisation, l'intégrité est compromise, données modifiées ou supprimées, et la disponibilité peut être affectée, suppression de données critiques. La protection principale contre l'injection SQL repose sur l'utilisation de requêtes préparées, aussi appelées requêtes paramétrées, qui séparent le code SQL des données utilisateurs. -2. Le cross-site scripting, que l'on appelle aussi injection de script côté client. Cette attaque consiste à injecter du code JavaScript malveillant dans une page web affichée à d'autres utilisateurs. Contrairement à l'injection SQL, qui cible le serveur et la base de données, cette attaque cible le navigateur des victimes. Il en existe deux formes principales. La forme réfléchie, l'attaquant envoie un lien piégé à la victime. Lorsque la victime clique, sa requête contient du code malveillant que l'e-server renvoie directement dans la réponse et le navigateur l'exécute. Par exemple, un moteur de recherche qui affiche « Vous avez cherché ». Terme, sans filtrer le terme, peut refléter du code JavaScript. La forme stockée, le code malveillant est enregistré dans la base de données, par exemple, dans un champ commentaire d'un forum. Chaque utilisateur qui consulte la page exécute le code à son insu. C'est la forme la plus dangereuse, car elle peut toucher des milliers d'utilisateurs sans qu'ils aient besoin de cliquer sur un lien. Ce que peut faire un attaquant avec cette technique, voler les cookies de session, et donc usurper l'identité d'un utilisateur connecté, rediriger la victime vers un site frauduleux, afficher de faux formulaires pour capturer des identifiants. La protection principale repose sur l'échappement des données affichées dans les pages HASML, c'est-à-dire transformer les caractères spéciaux comme les chevrons en version inoffensive. -3. La falsification de requêtes intersite, cross-site request forgery. Cette attaque exploite la confiance qu'un site web accorde au navigateur d'un utilisateur déjà authentifié. L'attaquant pousse la victime à exécuter une action sur un site où elle est connectée, à son insu. Exemple concret. Vous êtes connecté à votre banque en ligne. Un attaquant vous envoie un email contenant une image ou un lien piégé. En cliquant, ou parfois simplement en chargeant la page, votre navigateur envoie automatiquement une requête à votre banque pour effectuer un virement. Car votre session est active et votre navigateur inclut vos cookies d'authentification dans toutes les requêtes vers ce site. La différence clé avec le cross-site scripting. Dans le cross-site scripting, l'attaquant injecte du code dans le site cible. Dans la falsification de requêtes intersite, l'attaquant exploite la session active de la victime depuis un autre site. La protection principale consiste à utiliser des jetons anti-falsification, token. Chaque formulaire contient un identifiant unique et secret généré côté serveur que l'attaquant ne peut pas connaître. -4. Les failles d'authentification et de gestion de session. L'authentification, c'est le mécanisme qui permet de vérifier l'identité d'un utilisateur, connexion avec identifiant et mot de passe. La gestion de session, c'est ce qui maintient cet utilisateur connecté entre deux requêtes, via un cookie ou un jeton. Les vulnérabilités dans ces mécanismes sont extrêmement courantes. En voici les principales formes. Mot de passe faible accepté sans contrainte, longueur minimale, complexité, absence de protection contre les attaques par force brute. Un attaquant peut tester des milliers de combinaisons d'identifiants et mots de passe sans être bloqué. Identifiant de session prévisible ou non renouvelé après connexion, Un attaquant qui capture un ancien identifiant de session peut rester connecté. Transmission des données d'authentification en clair. Sans chiffrement via le protocole EHCPS. Absence de mécanisme de déconnexion efficace côté serveur. Exemple concret. Une application génère des identifiants de session de type session-1, session-2, session-3. Un attaquant peut deviner facilement l'identifiant de session d'un autre utilisateur et usurper son compte. Moins. 5. Les failles de contrôle d'accès. Le contrôle d'accès détermine ce qu'un utilisateur authentifié a le droit de faire ou de voir. Une faille de contrôle d'accès survient quand un utilisateur peut accéder à des ressources ou effectuer des actions qui ne lui sont pas autorisées. Deux formes principales. L'escalade verticale de privilèges. Un utilisateur standard accède à des fonctionnalités réservées aux administrateurs. Par exemple, en modifiant directement L d'une page d'administration. L'accès direct à des objets non autorisés, appelé aussi volonté direct object reference. Un utilisateur modifie un identifiant dans une URL pour accéder aux données d'un autre utilisateur. Exemple. L'UR/mon-compte/facture. 1020-4 affiche la facture numéro 1020. En remplaçant 1024 par 1025, l'utilisateur accède à la facture d'un autre client si aucune vérification n'est faite côté serveur. La protection repose sur la vérification systématique côté serveur que l'utilisateur connecté a bien le droit d'accéder à la ressource demandée. Moins. 6. Les mauvaises configurations de sécurité. Une application peut être techniquement bien codée, mais déployée avec une configuration non sécurisée. C'est une catégorie de vulnérabilité très large, qui inclut des pages d'erreur qui révèlent trop d'informations techniques, nom de fichier, technologie utilisée, structure de la base de données, des comptes par défaut, administrateur-administrateur, non modifiés après installation, des services ou fonctionnalités inutiles laissés actifs, des droits d'accès trop permissifs sur des fichiers ou répertoires, l'absence d'entête de sécurité dans les réponses AKAKPP, qui permettent pourtant d'atténuer des attaques comme le cross-site scripting. Exemple concret. Une application affiche un message d'erreur du type « erreur SQL » à la ligne 42 du fichier /www/appmodel-utilisateur.php. Cette information seule permet à un attaquant de connaître la technologie utilisée, l'emplacement des fichiers et le fait qu'une injection SQL est peut-être possible. Moins. 7. La falsification de requêtes côté serveur. Server-side request forgery. Cette attaque consiste à manipuler une application web pour qu'elle effectue des requêtes réseau à la place de l'attaquant, vers des serveurs internes ou externes. Exemple concret. Une application propose une fonctionnalité aperçue d'une page web où l'utilisateur fournit une UER. Si l'application ne valide pas cette UERL, l'attaquant peut fournir l'adresse d'un serveur interne, par exemple le serveur de base de données ou un service d'administration interne non exposé sur Internet, et récupérer des informations confidentielles. Cette attaque est particulièrement redoutable dans les environnements cloud, où des services internes exposent des informations sensibles, clés d'accès, configuration, via des adresses IP internes non protégées. Moins. 8. Les problèmes liés au téléversement de fichiers. De nombreuses applications permettent aux utilisateurs de téléverser des fichiers, photos de profil, documents, etc. Si cette fonctionnalité n'est pas correctement sécurisée, un attaquant peut téléverser un fichier malveillant exécutable sur le serveur. Exemple concret. Une application accepte les fichiers images sans vérifier leur contenu réel, uniquement l'extension du nom de fichier. Un attaquant renomme un fichier de commande PS, PH, PS et le téléverse. Si le serveur exécute ce fichier, l'attaquant obtient le contrôle total du serveur. On parle de shell web ou web shell. La protection repose sur la vérification du type réel du fichier, pas seulement son extension, le stockage des fichiers hors de l'espace web accessible et l'interdiction d'exécution de scripts dans les dossiers de téléversement. Moins. 9. Les mauvaises configurations des politiques de partage de ressources entre origines. Cross, origin, resource sharing. Lorsqu'une page web hébergée sur un domaine tente d'appeler une interface de programmation, API, hébergée sur un autre domaine, le navigateur applique des règles de sécurité strictes. La politique de partage de ressources entre origines est le mécanisme qui détermine quels domaines étrangers sont autorisés à communiquer avec cette interface. Une mauvaise configuration consiste par exemple à autoriser tous les domaines sans restriction. Cela peut permettre à un site malveillant de faire des appels à l'interface au nom de l'utilisateur connecté et de récupérer ses données. Exemple concret, une interface bancaire autorise n'importe quelle origine à accéder aux données en répondant « accès autorisé pour tout le monde » dans ses entêtes. Un site malveillant peut alors appeler cette interface depuis le navigateur d'une victime connectée et récupérer son solde ou ses transactions. Moins. Synthèse et lien avec votre futur rôle. Vous avez maintenant une vue d'ensemble des menaces web les plus courantes. Retenez les points essentiels suivants. L'injection SQL et l'injection de script côté client exploitent le manque de validation et de filtrage des données entrantes. La falsification de requêtes intersite exploite la confiance du serveur envers le navigateur de l'utilisateur. Les failles d'authentification et de contrôle d'accès résultent d'une conception insuffisante des mécanismes de protection des comptes et des ressources. Les mauvaises configurations, les téléversements non sécurisés, la falsification de requêtes côté serveur et les mauvaises politiques de partage entre origines illustrent que la sécurité ne se résume pas au code applicatif, mais s'étend à la configuration, au déploiement et à l'architecture. En tant que futur spécialiste en cybersécurité et test d'intrusion applicatif, votre mission sera d'identifier ces vulnérabilités sur des périmètres autorisés, de les documenter avec des preuves et de proposer des corrections adaptées. Ces notions seront approfondies tout au long du cursus, notamment lors des ateliers pratiques de tests d'intrusion et de la mise en place de pipelines de livraison sécurisés.